C'était Danitza avec Docassé. Elle a pas envie de parler, mais nous on a envie de parler. On est en compagnie, donc comme on disait tout à l'heure, de l'assemblée d'habitantes de la Rainerie. Donc la Rainerie, quartier populaire à Toulouse, situé à l'ouest de la ville, qui a été construit dans le courant des années 90 et qui est actuellement est sous le coup d'une politique de destruction qui est engagée par la ville de Toulouse, par la métropole toulousaine. Voilà, donc en fait, cette politique de démolition, elle est déjà en train de se concrétiser. Hein, on en parlait tout à l'heure. Il y a déjà la plupart des dalles du quartier qui ont été détruites. Il y a plusieurs immeubles depuis 2014 et peut-être un peu plus, on reviendra sur cette chronologie, mais notamment l'immeuble Gluck en 2014 a été détruit. Aujourd'hui, ce sont 5 résidences autour de la place Abal, donc le centre de la Rainerie, qui sont dans le viseur de Toulouse Métropole et qui devraient être détruits. Suivant ce qu'ils appellent un projet de renouvellement urbain. Donc ce projet de renouvellement urbain, il consisterait dans la démolition de résidences qui abritent 961 logements. Voilà, la destruction de 4 dalles avec des commerces et des activités, mais aussi la rénovation de la place Abal, qui du coup se ferait sur environ une dizaine d'années, avec à la clé dans la proposition, dans le discours de la mairie, des reconstructions de logements, d'équipements publics et de commerces et de locaux d'activité. Donc du coup aujourd'hui on reçoit cette assemblée des habitants de la Rainerie qui s'oppose à ce projet de démolition et donc qui l'ont fait savoir dans cette lettre ouverte sur le logement. Lettre qui critique cette politique de la ville menée dans ce quartier populaire, ce choix de la démolition plutôt que de la rénovation, critique aussi du coût économique et écologique du projet, mais aussi, même de manière plus générale, de l'idéologie qui sous-tend cette politique de la ville, qui est celle de la mixité sociale dont on a du mal à comprendre dans quelle mesure elle peut être bénéfique aux habitants du quartier. Du coup, j'en dis pas plus, c'était une manière de présenter un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que peut-être pour commencer, vous pourriez vous présenter le quartier de la Rainerie, peut-être à partir de son histoire, mais aussi de votre expérience et de votre vécu?
Je suis Karine, donc habitante de la Rainerie. Moi, j'y vis depuis 25 ans. Et la Rainerie, plutôt le quartier du Mirail, qui englobe donc 3 quartiers, c'est Bellefontaine, Rainerie et Mirail Université, est né donc d'une vision de cabinet d'architectes, Transidis, Josic et Woods, qui ont travaillé sur comment vivre l'habitat pour les habitants. Et ce projet donc a vu le jour à la fin des années 60. Et donc j'y vis, j'y ai étudié, j'y ai eu mes enfants et j'y vis encore. Et ce quartier, il est très agréable à vivre parce qu'il est l'école est à proximité de mon lieu de vie. J'y vais à pied avec mes enfants. Il y a beaucoup d'espaces verts avec des aires de jeu pour les enfants. Il y a des commerces. Au niveau de la place, il y a un lac, il y a un parc avec un château qui est classé. Donc, c'est un endroit très agréable. Et on est à 10 minutes du centre-ville grâce au métro.
Moi, je m'appelle Nassera. J'habite à la Rainerie, ça fait 6 ans, depuis 2015. Qu'est-ce que je connais à la Rainerie? J'avais ma mère qui habite là. J'ai mes sœurs qui habitent à Bellefontaine. Bon, moi j'étais de Montauban, mais je me suis approchée de Toulouse parce que par rapport à mon travail, j'ai eu un CDI. C'est pour ça que je suis venue sur Toulouse. Et pour l'instant, c'était bien, j'avais le commerce à côté et tout ça. Mais moi, le problème perso, c'est quand je sors du travail, pas d'ascenseur, monter 11e étage à pied. pas de lumière. Le quartier est bien, il n'y a pas de souci. Mais il y a beaucoup de trafiquants et c'est pour ça que ça m'a poussé à partir. Et je vais partir bientôt.
Bonjour Jean-Louis, j'habite le quartier depuis 40 ans facilement, oui. Ce qui est attachant dans le quartier, c'est qu'il y a une vie sociale importante, beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité. Il y a une histoire faite de différentes de batailles, de gens différents qui sont arrivés, partis. Et depuis maintenant plus de 20-30 ans, une population qui a créé des liens importants de solidarité, comme je disais tout à l'heure. Et que ça, c'est quelque chose, c'est ce qui fait quartier. Quand on parle de quartier, on peut dire que c'est un véritable quartier, dans le sens où c'est pas simplement des gens qui rentrent le soir, qui dorment et qui repartent le matin. Il y a une vie sociale réelle. Et que ça, les projets, c'est de détruire tout ça, pas simplement les bâtiments, mais aussi, la vie des gens. Voilà, et que je trouve ça une très mauvaise chose, parce qu'il faut laisser le temps aux gens de faire histoire, de se connaître, de tisser des liens, et c'est ça qui fait société, c'est ça qui fait quelque chose de solide et de possible entre les gens.
Tout à l'heure, un petit peu avant d'être à l'antenne, on parlait de ce quartier et de ces bâtiments qui sont un peu nés dans un projet de ville nouvelle avec des appartements lumineux traversants, peut-être des immeubles qui ont aussi besoin de rénovation, mais qui, selon vous, en tout cas dans ce que vous portez, ne méritent pas d'être démolis. Déjà en tant que bâtiment, dans ce qu'ils proposent de comment on habite un lieu.
On a déjà un petit retour d'expérience, parce que en 2017, un premier nouveau bâtiment a vu le jour à la sortie du métro Place Aval, qui a accueilli des habitants relogés d'autres bâtiments prévus à la démolition. Et ces bâtiments... Ce nouveau bâtiment, finalement, s'est révélé plus petit. Plutôt les locataires donc, qui ont pris leur quartier se sont retrouvés dans des logements plus petits, beaucoup plus chers que ceux qu'ils avaient quittés dans les bâtiments de Candilis. Avec quelque chose d'assez surprenant, sur le quartier du Mirail, tous les immeubles de Candilis sont reliés au chauffage urbain, donc, alors que ce nouveau bâtiment sorti de terre n'y a pas été raccordé. Et donc les locataires se sont retrouvés donc, avec des radiateurs électriques et des plaques électriques. Donc, en quittant leurs anciens logements, ils ont dû se débarrasser de tous leurs meubles, puisqu'ils allaient rentrer dans de nouveaux logements plus petits. Ils ont dû aussi se débarrasser de leur électroménager, notamment leur cuisinière à gaz, puisque leur nouveau logement, il fallait des cuisinières électriques. Et donc là, ils se retrouvent donc, à payer, dans une surface plus petite, à payer des loyers beaucoup plus élevés, de 150 euros à 200 euros plus cher, plus des charges électriques qui n'étaient pas prévues dans leur budget.
Oui, et du coup, ça fait le lien avec cette critique du logement, ce qu'ils appellent logement social aujourd'hui, puis un peu de la fin des HLM qui a été amorcée sous Sarkozy, avec la réduction de l'accès au logement social dans l'objectif de moins en construire. C'est-à-dire que, je ne sais plus si c'était dans votre lettre ou justement dans ce fascicule un peu des architectes qui critiquent les démolitions, il y a eu la loi Boutin sous Sarkozy, j'imagine, du coup. Bon, Boutin, personnage politique par ailleurs, mais bon, on n'en parlera pas, qui, du coup, avait baissé de 10% le seuil de revenus à partir duquel on pouvait accéder au logement social, ce qui a eu pour conséquence de baisser de 60 à 70% le nombre de personnes, en fait, qui pouvaient y avoir accès. Ça fait, donc, en fait, ce que vous critiquez au-delà de la démolition de ce quartier dans lequel vous vivez, c'est en fait la politique générale qui vise à abandonner le logement social, les HLM, augmenter les loyers et à orienter tout le monde vers des bailleurs privés ou semi-privés.
Oui, c'est ça, c'est tout à fait... La volonté de détruire ce qu'on appelle les HLM habitations à loyer modéré et d'en construire un minimum, ça court depuis une vingtaine d'années. Donc il y a une part qui est de faire du logement un bien de consommation courant, c'est-à-dire qu'il ne soit pas durable, qu'on puisse redétruire 20 ans ou 30 ans après, reconstruire, enfin, vraiment un élément de consommation. Ça, c'est une première chose. Et une autre chose, c'est aussi de viser toute une partie de la population en France et la désigner comme gens à problème qu'il faut surveiller et surtout éloigner des centres-villes. Voilà, donc maintenant, le Mirail fait partie quasiment du centre-ville de Toulouse. Hein. Comme disait Karine, on est à 10 minutes du Capitole. Et que les gens les plus pauvres et les gens un peu trop basanés n'ont plus vraiment une place dans la ville. Ça nous a été dit hein, par un adjoint au maire qui expliquait tranquillement qu'il fallait changer les têtes. Donc on s'aperçoit que tout le volet mixité sociale, en fait, c'est des mots qui ne veulent pas dire grand-chose. Puisque mixité sociale, ça veut dire en fait laisser la place à ceux qui ont plus de moyens que vous et qui, dans ceux qui ont plus de moyens, sont aussi, pour certains, un peu plus blancs que vous. Voilà, donc la mixité sociale, ça veut dire éloigner des gens, les désigner comme gênants. Et voilà, c'est ce qui se met en place petit à petit. Ou c'est ce qu'ils veulent mettre en place petit à petit, contre la réalité, contre ce qui est vraiment ce qui fait le pays aujourd'hui réellement.
En fait, la loi Boutin, de fait, a exclu donc un bon nombre de personnes CSP+, du champ du logement HLM, et donc a supprimé la mixité sociale qui y existait. Et maintenant, on réutilise donc ce mot objet, ce mot outil mixité sociale pour justifier maintenant qu'on a sorti une certaine catégorie de personnes des HLM en disant bon, maintenant, vous les plus pauvres, vous êtes le problème, on va démolir votre habitat, on va vous déplacer plus loin et ainsi reconstruire pour ceux qui ont les moyens d'être là.
Et puis, dans la logique logement social aujourd'hui, parce qu'on nous dit, on construit, la mairie nous dit qu'ils construisent autant de logements sociaux que ce qu'ils en détruisent, il faut bien voir que logement social, ça ne veut pas dire loyer abordable. Hein, voilà. C'est deux choses différentes. Logement social et loyer abordable, ce n'est pas la même chose. Par exemple, dans tout le nouveau complexe de luxe qu'ils construisent à Saint-Cyprien, il y a, je ne sais pas combien de pourcents réservés au logement social. Bon. Il faut savoir le prix réel des loyers et le prix des charges et les gens qui vont avoir accès à ces logements sociaux vont déjà leur demander un niveau de salaire, de revenus conséquent. Donc logement social ne veut plus rien dire parce qu'il y a une échelle très grande de prix de loyer.
Je vous propose de faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après.
Dans cette rue, il y avait des Espagnols qui n'osaient pas montrer qu'ils étaient de vieux réfugiés qui avaient fui les comtes et les rois. Dans cette rue, il y avait des Français qui n'avaient pas de chance. Ils ont écrit « Vive la France » au fronton de leur maison. Dans cette rue, il y avait des Portugais fiers comme le geôlier de la misère, quelques arbres fruitiers et la pudeur de la terre. C'était ma rue, ma famille, les mamans qui s'égosillent. C'était pas jouer aux billes, c'était ma rue. C'était pas manier, non, c'était pas les Antilles. Le marteau ou la faucille, c'était ma rue. Les glaces à la vanille, les petites qui frétillaient, qui n'étaient pas si gentilles, c'était ma rue. Bon,
toujours les anguilles et les condés qui nous quadrillaient. Moi c'était pas ma bastille, c'était par eux.
Dans cette rue il y avait l'Afrique et son mea culpa d'avoir un autre dieu, je crois. Ils ont trouvé des condés et des croix. Dans cette rue il y avait tous les ouvriers de la terre. Ils ont construit des pétataires qui n'habiteront jamais. Dans cette rue il y avait des caravanes comme des chariots de la colère. Mon pas peur de l'hiver, de la fureur de la terre. C'était
ma rue, ma famille et les mamans qui s'est gosillé. C'était pas jouer aux billets, c'était ma rue. C'était pas manier, non c'était pas les Antilles. Le marteau ou la faucille, c'était ma rue. Les glaces à la vanille et les petites qui frétillaient. Qui n'étaient pas si gentilles, c'était ma rue. Bonjour les anguilles et les condés qui nous quadrillaient. Moi c'était pas ma bastille, c'était ma rue.
Dans cette rue, je crois, les enfants n'étaient pas de glace. Quand passait le camion de glace,
on tirait des langues étrangères.
On était dans les bois, on avait des arcs et des flèches. Quand d'autres avaient des cannes à pêche, mais l'école elle en veut pas. Un jour on s'est fâché, on a tout brûlé, on n'a pas eu peur de l'enfer. Quand on s'est réveillé, derrière des barreaux en fer.
Marie, ma famille et les mamans qui s'est gosillé. C'était pas jouer au billet, c'était ma rue. C'était pas manier, non c'était pas les Antilles. Le marteau ou la faucille, c'était ma rue. Les glaces à la vanille et les petites qui frétillaient. Qui n'étaient pas si gentilles, c'était ma rue. Bonjour les anguilles et les condés qui nous quadrillaient. Moi c'était pas ma bastille, c'était ma rue.
Passé de 25 minutes sur Canal Sud et nous sommes toujours en compagnie de l'Assemblée d'habitants de la Rainerie, mais aussi au téléphone si tout se passe bien, avec une quatrième personne.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, je suis habitante de la Rainerie.
Oui, ben, enchantée, bienvenue. Est-ce que vous voulez peut-être vous présenter ou...
Je suis habitante de la Rainerie, j'ai tant d'années que j'habite ici, mon mari ainsi que mon mari. Donc, j'ai passé pour une première mixité, soi-disant mixité. Ils ont cassé des barres depuis 2013. Là, c'est la deuxième fois. Et pour désenclaver, pour faire leur projet, pour. Mais depuis, voilà, c'est la deuxième fois qu'on galère pour les logements. Et je m'appelle Sonia.
Et bah justement, en fait, on a commencé un petit peu par parler du projet, de cette politique d'exclusion, d'expulsion un peu du centre-ville des personnes pauvres, voilà. Mais en fait, ce qui apparaît aussi dans cette lettre, c'est que la logique de démolir un quartier, c'est aussi un peu faire table rase de son histoire et voilà, de ces solidarités, comme vous le dites, de tout ce qui se crée. Est-ce que justement, vous voulez un petit peu parler de ça et de votre refus de cette démolition aussi sous cet angle-là, de ce qui se vit à la Rainerie dans ce quartier populaire?
Je trouve déjà que c'est du gâchis au niveau logement, au niveau de finance, au niveau de que l'État, elle est en veut et l'État, elle construit pas assez de logements HLM et qui satisfait le besoin des étudiants, les besoins des jeunes, les besoins des gens qui sont dans la précarité, on va dire. Il y a des gens qui sont en attente d'être relogés ils préfèrent payer des hôtels pour ces gens que ça fait, ça c'est des impôts, ils cherchent l'argent là pour donner dans des hôtels et qu'il y a des bars qui sont vides, qui peuvent accueillir la totalité, et que ça c'est pas un projet qui peut satisfaire aussi au niveau de mixité, parce qu'on voyait pas la mixité, parce que c'était en 2013, c'était pour la mixité, on voyait pas ça. Du coup, moi je vois que c'est du gâchis, et que l'enquête utilité publique, elle était en 2013, en 2017, elle était refaite, parce qu'elle était pas, elle était passée en 2013. Du coup, je sais pas s'il y a un abus de pouvoir ou une main basse sur une telle population pour faire disperser ces gens et faire camoufler leur pauvreté au lieu de résoudre les problèmes de logement. Par exemple, on voit que à Bordeaux, qu'il y avait des habitants, il y avait des architectes qui sont inclus dans le projet de rénover avec ce qu'on a et faire gagner déjà l'espace et faire rénover. Ça coûtait moins cher au niveau de construction, mieux que la construction de nouveau. Et aussi, on voyait aussi que ça va vers le privé. C'est pas vers c'est le social privé. Du coup, c'est pas HLM. Et nous, on demandait que les gens qui ont des revenus moyens, qui dorment dans la voiture, qui peuvent accéder à ce logement, ils vont où? On les raye de la carte, on les raye de Toulouse. Et les bars d'immeubles qui sont les plus grands bars qu'ils ont résisté à ZF, qu'ils sont encore là debout, ils veulent rayer l'histoire de Toulouse. Parce que Toulouse, elle est connue par la fac et par les bars de Candélis.
Est-ce que vous voulez réagir sur le plateau?
Alors, je vais réagir à ce que dit Sonia. Effectivement, en fait, la spécificité du Mirail, ce sont des immeubles qui sont étudiés dans les écoles d'architecture et qui sont connus dans le monde entier. Et ce type d'habitat n'existe qu'au Mirail, à Toulouse, nulle part ailleurs. Et des architectes du monde entier se sont déplacés, des Japonais, des Allemands, des Hollandais, des Américains, pour voir comment a été construit l'habitat et comment il a été pensé pour les habitants. Et c'est ce qu'on va rayer de la carte. On va créer ce patrimoine de la carte pour des décisions politiques, et on utilise de l'argent public pour démolir et permettre à des promoteurs privés de reconstruire derrière.
Avec de l'argent public, du coup, de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, ce qui amène aussi à se demander, parce que c'est de l'argent public, du coup, on compte pas et on peut se permettre de reconstruire un truc.
Absolument, il n'y a aucun souci de l'intérêt général. Alors juste pour rebondir un peu sur ce que dit Karine par rapport au projet architectural, il y a aussi le fait que, et ça c'est très, très, intéressant, très important, il y a un collectif d'architectes qui s'est mis en place, qui est maintenant, qui prend une ampleur nationale, en défense du projet Candélis, et dans une logique que le patrimoine doit être préservé, mais pas comme quelque chose de mort, mais y compris en pensant sa rénovation, en respectant l'esprit de départ de l'équipe d'architectes qui a bâti le Mirail. Après, sur l'autre aspect de l'histoire, ça, on peut voir que c'est le côté histoire architecturale, histoire de la ville en termes de structure. Après, il y a l'histoire des gens. Ce qui fait un quartier, ce qui fait une ville, ou ce qui fait un pays, c'est les gens, ce sont les gens, c'est leur histoire, c'est leur si on regarde au niveau des quartiers populaires en France, qu'on appelle les quartiers populaires, qui sont tous désignés du doigt et dont bon nombre sont voués à la destruction si on les laisse faire, il faut bien voir que beaucoup de nouveautés sortent des quartiers populaires, que ce soit en termes de mode, d'art, de musique, d'idées, etc. Énormément de choses sortent des quartiers populaires, contrairement à ce qu'on nous dit, où ça serait des lieux invivables, où rien n'est possible, où les gens ne sont, ne sont rien, les gens viennent d'arriver. Enfin, on entend toute une série de discours qui ne correspondent aucunement à la réalité. Et ce qui est bien dommage, c'est que bon nombre de gens se contentent d'entendre ça au lieu d'aller voir ce qui s'y passe, au lieu d'aller voir les gens, au lieu d'aller voir, d'aller en discuter. Les seuls gens qu'on voit passer hors du quartier, c'est les consommateurs, c'est les consommateurs de drogue. Et c'est bien dommage, parce que c'est bien dommage. Alors juste un mot sur cette affaire, puisque j'en parle, de consommation, de deal, etc. Ce qu'on explique aussi dans la lettre ouverte, ce qu'on en dit dans la lettre ouverte, c'est que les lieux de deal sont décidés par la préfecture, en dernier ressort. Ce sont ni les vendeurs, ni les acheteurs qui décident du lieu de vente. C'est la préfecture.
Absolument.
Voilà. Donc si tel lieu de deal a lieu à tel endroit, à tel moment, c'est parce que la préfecture le veut bien. Donc on ne nous raconte pas d'histoire. Toute la thèse de Pierre Rocard, ancien ministre, qui était de dire les quartiers sont des lieux criminogènes, ça a été le début, enfin, sous l'ère Mitterrand, le début de pointer du doigt une partie de la population française au travers de l'habitat, etc. Donc ça, c'est des choses qu'il faut rectifier, qu'il faut avoir le courage et la persévérance de remettre les choses dans la vérité, dans le vrai de ce qu'est la vie des gens.
C'est pour ça que les gens ils partent, parce que à cause de ça, ils sont poussés à partir à force, ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol. Pas d'ascenseur, pas d'émière. Alors ils sont en train de nous pousser à partir. Ceux-là qui veulent partir, ils partent. Bon, ceux-là qui veulent pas partir, parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, mais ils savent ni lire ni écrire non plus. Ils abusent de leur... comment dire ça ? Non, mais pas forcément elle, mais certaines, il y a certaines personnes âgées et tout ça, qui sont faibles et qui abusent d'eux, quoi.
Ça se fait aussi sur le temps long, quoi, mm-hmm. de c'est pousser bon. Les gens à partir
voilà,
sans le dire, en fait.
C'est ça.
En fait, voilà, la vie sur le quartier, sa réalité, c'est qu'à partir de 11h du matin jusqu'à 3h le lendemain, il y a des jeunes... Donc des jeunes dealers qui prennent leur fonction en pied d'immeuble. Oui. Ils ont leur chaise, leur canapé, ils s'installent. Donc c'est sur la voie publique, hein, sur la voie publique, donc au vu de tout le monde. Et donc les consommateurs passent, achètent, et ces jeunes dealers donc tiennent les pieds d'immeuble et filtrent les entrées des immeubles.
C'est vrai.
Et parfois même agressent les habitants des immeubles. Donc et vandalisent ces mêmes immeubles, donc mettent hors service les ascenseurs pour la nuit, pour effectuer leur vente, ben, mettre les cages d'ascenseurs dans le noir. Donc, et ça, la préfecture a été déjà alertée depuis une dizaine d'années par les habitants de cette situation, la mairie aussi, la métropole aussi, les bailleurs sociaux aussi. Pourtant, rien n'est fait pour permettre aux habitants de vivre sereinement dans leur logement et dans leur quartier. Laisser prospérer cette situation avec les dealers permet, dans le cadre de leur projet de ville et de rénovation urbaine, ben, de motiver les habitants à partir, puisqu'en laissant les conditions de vie des habitants se dégrader, ben, on force petit à petit les gens à partir. Et c'est sur cela que s'appuie la cellule relogement qui se met en place quand un bâtiment est désigné, pour dire, ben, vous voyez, on va vous proposer un logement ailleurs, plus calme, vous n'allez pas être embêté, vous aurez des ascenseurs. Donc voilà, voici ce qui se joue. En laissant les conditions de vie des habitants du quartier se dégrader, c'est ben, leur faire croire qu'ils vont trouver mieux ailleurs, parce que ce qu'ils vivent, ben, c'est insupportable. Mais ce qu'ils vivent qui est insupportable, c'est l'abandon juste ben, de l'État, de la mairie, et des bailleurs sociaux. On laisse les habitants face aux dealers.
Après, c'était dit clairement, clair et net, on veut changer les têtes des habitants, des gens, et on veut aussi, si vous n'êtes pas satisfait, vous partez. On ne peut rien pour vous, on va casser, vous partez.
Là, quand on s'était eu au téléphone, Jean-Louis, tu disais que... qu'en fait, ils parlent de mixité sociale, mais on a bien l'impression qu'ils veulent une mixité raciale.
Oui, absolument. C'est ce que disait tout à l'heure Karine. Mixité sociale, ça ne veut là aussi strictement rien dire. Et ça dit, en fait, ça dit par le non-dit. Parce que ce que je veux dire, c'est que sur le quartier, il y a une mixité sociale. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont fait des études, il y a des gens qui ont qui travaillent dans des emplois stables, qualifiés. Il y a aussi des gens précaires. Il y a toutes sortes d'habitants qui réalisent, d'un point de vue sociologique, une mixité sociale. Puisque quand on dit mixité sociale, c'est ils ont des termes très techniques maintenant, c'est l'indice de... je ne sais plus comment ils appellent ça, c'est un truc incroyable, enfin vous le retrouverez, qui prend en compte les revenus des gens en fonction de la famille, etc. Donc ça existe sur le quartier. Donc en fait, le mot mixité sociale, c'est le non-dit qu'il y a derrière, qu'il faut relever, qui est effectivement mixité ethnique, mixité raciale. Et dans leur tête, hein, c'est pas des termes que moi personnellement j'emploie, hein, ethnie, race, tout ça, c'est pas trop mes trucs. Et qu'en même temps, on voit bien que dès qu'ils parlent de mixité sociale, c'est comment on va faire partir une partie de la population. Ils ont fait la même chose pour le collège sur le quartier, à la Rainerie et à Bellefontaine. Ils ont fermé deux collèges en réseau d'éducation prioritaire, sous prétexte de mixité scolaire. Et après, ils ont parlé de mixité sociale. Et au début, ils parlaient de mixité ethnique. Donc, quand on parle de mixité, tout est bon, tout est flou. Le résultat des courses, c'est que les gamins du quartier, les familles du quartier, n'ont plus de collège de proximité. Ils sont obligés de prendre le bus le matin, de faire une demi-heure de bus pour ceux qui sont le plus loin, demi-heure, trois quarts d'heure de bus, le soir aussi, etc. Donc c'est quelque chose, c'est en fait destructeur. Dès qu'on entend mixité sociale, si on a un conseil à donner aux gens, c'est de vite, vite partir en courant, ou vite, vite réfléchir à ce qu'ils peuvent faire. Ça me fait penser que quand il y a eu les grands plans de licenciement dans les années 80, on appelait ça un plan social. Voilà. Donc dès qu'on nous parle de social, en fait, ça sent pas bon.
Et d'ailleurs, en parlant de ce collège, il faut voir quand même qu'il y a eu des luttes et des mobilisations. En fait, à l'inverse des représentations qui sont véhiculées sur les habitants comme, par exemple, inactifs face à ce qui se passe ou passifs. Et en fait, dès qu'il y a des mobilisations sur des sujets sociaux, qui montrent aussi même la joyeuse dans la lettre, qu'en fait il y a aussi un souci écologique par rapport à tout. Souvent on va stigmatiser les habitants de quartiers populaires en disant ils n'ont aucune conscience écologique. Bien et sûr, en fait quand justement sûr. Ils se mobilisent, bah, il n'y a aucune écoute. Ça me faisait un petit peu penser à ça, il y a quand même aussi une...
Un exemple tout simple qui a lieu actuellement, c'est dans une école du quartier, une école primaire du quartier, l'école Dora. Les parents d'élèves avec des habitants se mobilisent parce qu'il y a deux familles qui vivent dehors. Les enfants vont à l'école et le soir, pour une famille, ils rentrent dans la voiture à côté pour passer la nuit et se débrouiller comme ils peuvent. Donc mobilisation sur l'école, réunion dans l'école, goûter solidaire, etc. pour demander à ce que quelque chose soit fait pour ces familles. De suite, à 19h le soir, deux personnes importantes du rectorat arrivent, menacent les enseignants qui sont restés avec les habitants. Les habitants défendent les enseignants en disant que c'est eux qui étaient à l'initiative, que les enseignants n'ont rien à voir. On nous envoie la police, ça ne va pas plus loin parce que c'était un peu compliqué pour eux d'intervenir. Le lendemain, on rebelote. Et tout ça se termine avec le rectorat qui demande aux parents de l'école, un certain nombre de parents de l'école, les parents délégués en particulier, dans le cadre de ce qu'ils appellent une enquête flash, c'est quand même des termes de préfecture, ça, hein, c'est pas des termes de rectorat, mais enfin, apparemment, et les convoque un à un au rectorat. Donc la décision collective des parents, ça a été de faire une lettre très intéressante et qui, entre autres, explique que d'abord, ils n'iront pas. Ils n'iront pas à la convocation pour l'enquête flash du rectorat. Et que si les gens du rectorat veulent discuter avec les parents d'élèves, ben, qu'ils se déplacent et qu'ils viennent les voir. Donc je suis tout à fait d'accord pour dire, ça rejoint un peu ce que je disais aussi tout à l'heure, la nouveauté se passe dans les quartiers populaires. Et ne pas le voir, c'est passer à côté de la réalité du pays aujourd'hui, de ce qui nous est contemporain, de notre temps.
Jacques Sonia voulait réagir, peut-être.
Moi, si possible. Allô.
Pardon. Non, oui, oui. J'avais l'impression que.
Moi, si c'est possible. Je souffre de cette façon de faire avec les gens. Que des gens qui viennent de l'extérieur, on ne sait pas qui sont, qui décident à ta place où tu vas vivre, qu'est-ce que tu vas faire demain, c'est des intrus pour moi, et que il n'y a pas de compte rendu. Ils nous disent vous avez des représentants, on n'a jamais vu ces représentants ni un compte rendu, et en plus on n'est pas malade mental pour attendre que quelqu'un qui nous représente pour demander nos droits ou savoir qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on devait où on veut vivre, ça c'est nous, et je pense que décider comme ça, ça veut dire pour moi, c'est passer vous êtes rien, et pour moi, vous n'êtes pas quand vous êtes pauvre, parce qu'en disant tout à l'heure Jean-Louis, ethnique et sociaux, classe sociale de niveau voilà, pauvre, on va dire leur terme bizarre. Donc ces gens-là, il fallait qu'ils vivent pas là-bas. On veut faire le métropole, mais on va écraser entre-temps ces gens-là. Au lieu de résoudre les problèmes, il y a des bâtiments qui sont robustes. Il suffit juste de les améliorer, de rénover, juste d'avoir l'accessibilité à des jeunes. Il y a des jeunes qui veulent s'installer. Hein. Il y a des jeunes qui n'arrivent même pas aujourd'hui à trouver pour s'installer, faire leur avenir. Et moi, j'ai des études futures études. On veut être là et on veut être pris en charge, et on veut être, nous on paye un loyer et par rapport à ça on demande de se faire respecter, de se faire respecter et respecter. Donc là, quand on sort avec les jeunes et les dealers qui sont là, et quand il y a monsieur qui passe pour faire son plan de vote pour préparer les élections, on voyait pas une mouche qui passe, c'est bizarre. Donc là, ça veut dire que c'est voulu, c'est fait pour que quand on traite ces gens-là de ghetto ou autre, et des gens qui sont sales et du coup ils se permettent. Mais quand il s'agit de faire une vote, là ils viennent mettre leurs mains propres, soi-disant, entre guillemets propres, dans notre main sale. Et demain ils nous rayent de la carte pour changer nos têtes.
Alors justement, je propose, vu que ça fait un certain temps, de faire une petite pause musicale et peut-être de revenir aussi sur tout ça.
Ma ville a ses petits avions, jolis comme des papillons, mais qui les prend, à votre avis, qui les prend, on s'est compris. Ma ville a ses jardins où le bonheur s'arrête aux environs de 18h. Car les kiosques à la gloire de la patrie n'aiment pas le bruit de ceux qui rêvent de lutte de classe et qui portent des t-shirts chiapas. Ils veulent pas oublier que tout ne peut pas s'oublier. Chantin, moi j'ai choisi mon camp. Y'a des djembés qui sous la bourrasque font chanter tous les pays basques. Sans déconner, il était temps. Des Sénégalais chantent l'Occident. Y'a ceux de Malte ou de Jérusalem qui
HLM, au milieu de tous ceux qui sont pas nés de l'autre côté.
Ils ont pleuré mais des années durant d'être oranés, mais plus jamais d'orang. Ils veulent pas oublier qu'ils étaient pas les premiers.
Et c'est depuis longtemps qu'ils sont là, et pourtant
ils pleurent mais moi je reste. Je le dis sans conteste, j'y suis, j'y reste, j'y suis, j'y reste. Mais moi je reste, je le dis sans conteste, j'y suis, j'y reste, j'y suis, j'y reste.
Ma vie là c'est plein de ces plots qui font d'elle un petit enclos. Balade en vélo, pas pour ceux qui rentrent au galop.
Ils ont l'accent mais ils ont pas l'accès. Tout ça, ça vous fait de méchantes poussées. Comme une guerre qui porte son nom à chaque prénom. A toujours descendre les mêmes escaliers et toujours tomber sur le même palier. Pas assez.
Et si de temps en temps il passait du bon temps,
moi c'est décidé, je reste. Je le dis sans conteste, j'y suis, j'y reste, j'y suis, j'y reste. Moi c'est décidé, je reste. Je le dis sans conteste, j'y suis, j'y reste, j'y suis, j'y reste. Moi c'est décidé, je reste. Je le dis sans conteste, j'y suis, j'y reste, j'y suis, j'y reste. Moi c'est décidé, je reste. Je le dis sans conteste, j'y suis, j'y reste, j'y suis, j'y reste. Moi c'est décidé.
Il est midi et 50 minutes sur Canal Sud pour le magazine, toujours en compagnie de quatre camarades de l'Assemblée d'habitantes de la Rainerie. On a commencé à en parler un petit peu avant la pause musicale, mais on pourrait un petit peu poursuivre. On parlait de politiquement, en fait, comment est-ce que ces projets ont été... Allez, pour faire très doux, on va dire proposé, si ce n'est imposé aux habitants. Est-ce que justement vous voulez un petit peu parler de la manière dont vous avez été impliqué ou pas dans l'avenir, les transformations du quartier?
Alors, depuis le début des années 2000, en fait, il y a des réunions publiques où les habitants étaient invités. Et la mairie de Toulouse est toujours venue avec ses PowerPoints, avec leur vision de vivre le quartier et ce qu'ils prévoyaient pour les habitants. Donc, ils ont voulu, en 2010-2011, commencer à vendre un projet qui s'appelait la Maison de l'Image, alors que les habitants réclamaient une maison de quartier. Les habitants ont toujours demandé une maison de quartier, ont toujours voulu leur vendre la Maison de l'Image, qui finalement, Maison de l'Image, projet qui a été abandonné lors du changement de maire aux commandes. Donc voilà, voici comment sont vécues les choses avec la mairie toulousaine. Et donc concernant le projet de ville en tant que tel, ils ont été en fait face à une problématique, c'est que sur le quartier, à part un immeuble qui est une copropriété, tous les autres immeubles sont gérés par des bailleurs sociaux, donc des immeubles totalement locatifs. Donc les bailleurs sociaux ayant la main sur ces immeubles-là,
ils ont pu commencer à démolir puisque le propriétaire étant d'accord avec les démolitions, donc les démolitions ont pu avoir lieu. Et la façon dont c'était vendu aux habitants, ben, on les invite à une réunion, on leur dit « votre immeuble va être démoli, une cellule relogement va être mise en place, vous allez y mettre votre vœu de relogement, et à l'issue de ce vœu de relogement, trois propositions de logement vous seront faites. » Et à l'issue de ces trois propositions, si vous n'en acceptez aucune, ce sera convocation devant la préfecture et si toujours refus, expulsion. Et vous devez vous reloger à vos frais. Avec campagne d'intimidation de la part des personnes travaillant dans ces lieux de relogement en disant « vous n'avez pas le choix, c'est ainsi, ça va être démoli, donc vous acceptez ce qu'on vous propose, circulez, il n'y a rien à voir ». Voici la méthodologie. Concernant la copropriété, là, la difficulté a été qu'il faut respecter la loi. Parce que le droit de propriété est un droit inscrit donc dans la Constitution française. Donc là, il a fallu donc, utiliser un outil juridique qu'on appelle l'enquête publique pour justifier un intérêt général à démolir. Sauf que cet outil, l'enquête publique, en fait, n'a été utilisé qu'en dernier ressort parce qu'ils se sont juste confrontés à de la résistance de la part des propriétaires de certains propriétaires qui ne voulaient pas vendre leur logement à vil prix. Donc, pour parler de cet immeuble, c'est l'immeuble Messager. En 2009, on annonce aux propriétaires... en 2009, on l'a su après que l'immeuble est rentré dans le grand projet de ville. Juin 2010, Assemblée générale des copropriétaires ont fait voter de gros travaux de rénovation au niveau de la copropriété. Et puis, Assemblée générale extraordinaire, décembre 2010, pour annoncer aux propriétaires qui venaient de voter des travaux de rénovation que l'immeuble va être démoli. Donc, du coup, douche froide pour les propriétaires qui ne comprenaient pas ce qui leur tombait sur la tête. Finalement, de l'argent public a été utilisé pour rénover ce bâtiment, prévu pour une démolition. Donc, rénovation de mes opinions, rénovation électrique, rénovation gaz, et tout ça pour plusieurs millions d'euros d'argent public pour un bâtiment qui va être démoli. Le bailleur social qui, lui, détenait deux tiers du bâtiment à titre locatif a relogé tous ses locataires et les propriétaires restants qui ne voulaient pas vendre, donc sont encore dans les lieux. Et ils ont dû attendre 2017, les propriétaires, pour voir apparaître cette enquête publique qui a donné un avis défavorable sur le projet de démolition et sur le projet sur le quartier, en mettant en avant le fait qu'il n'y ait pas eu de concertation des habitants. À l'issue de cela, Toulouse Métropole a annoncé aux propriétaires qu'ils ne renonçaient pas à démolir le bâtiment, mais que comme il n'y a pas eu de concertation, qu'ils allaient faire une concertation. Donc 2018... ils invitent tous les habitants à une jolie réunion avec un PowerPoint en disant, voilà, maintenant, ce ne sera plus l'immeuble Messager et l'immeuble Dindy qui sont privés à la démolition, mais on en rajoute d'autres. Donc, Poulenc, le petit Dindy, Gluck, Cambert, voilà, maintenant, le collège, le stade à côté du collège. Donc, nous allons libérer 10 hectares de foncier à 10 minutes de centre-ville pour y construire des petits îlots avec des petites maisons individuelles et des petits immeubles locatifs, pas plus de 5 étages. Et donc, circuler, il n'y a rien à voir, c'est ainsi, et vous n'avez rien à dire. Donc, les habitants se sont mobilisés, et ils ont été donc obligés de déclencher une deuxième enquête publique en 2021, qui donc a rendu un rapport à la fin du mois de juin, où là, cette fois-ci, avec les mêmes éléments, le commissaire enquêteur de cette nouvelle enquête publique, cette fois-ci, a rendu un avis favorable. Incompréhension de tous, avec les mêmes éléments, on rend un avis favorable. Donc voici la façon de fonctionner de la métropole. On vient avec un joli PowerPoint auprès des habitants en disant nous vous proposons ça comme manière de vivre et vous devez l'accepter ou si ça vous êtes pas d'accord, vous quittez le quartier.
Je me permets, allez-y. Je me permets juste de dire que malheureusement l'heure tourne et qu'il nous reste quelques minutes et qu'on peut aussi conclure, même si j'espère qu'on aura peut-être l'occasion de se revoir dans le studio, que l'heure tourne et que peut-être on peut, conclure et donner des rendez-vous, des lieux ou des réseaux sociaux où vous rejoindre.
Oui, alors il y a plusieurs choses que
si les gens sont intéressés pour suivre cette affaire, ce qu'on disait tout à l'heure, le collectif d'architectes qui sort tout un dossier, etc. Donc c'est quelque chose de très intéressant à suivre, à notre avis. Bon, ça, c'est une part des choses. Ensuite, les habitants qui veulent rester sur le quartier ont comme affirmation qu'ils ne sont pas de la poussière, que l'on déplace comme on veut, qu'ils existent, qu'il faut les respecter, qu'il faut en tenir compte. Donc ça, c'est un point très important sur lequel on appelle toute une chacune à réfléchir et à s'engager. Ensuite, on peut nous écrire sur un mail assemblée.habitants au pluriel .rennerie@gmail.com. Voilà.
Et le dossier des architectes, on peut être trouvé, la revue s'appelle Construire, et donc ils ont un mail, construire.archi@gmail.com, et voilà, et ils peuvent faire suivre leur dossier.
Merci beaucoup à vous. Merci. C'était trop court.
Moi, je fais appel à tous les gens qui aiment Toulouse, pas comme les autres qui l'aiment, à tous les Toulousains, à tous les architectes, à toute personne qui aime l'histoire de cette belle ville, de s'investir sur ce projet de démolition de l'histoire de Toulouse, que c'est une histoire magnifique qui va rayer de l'existence des architectes, des grands architectes qui a pleuré quand il a vu que la plupart de ses immeubles sont démolis. Et ça fait mal au cœur de voir qu'une histoire, il va être à l'oubli, rayé avec un stylo gommé pour une portefeuille de monsieur et madame, pour être métropole, mais à métropole comment, sur le dos de qui, et les Toulousains, ils sont où dans cette histoire?
Qu'on garde à l'esprit qu'actuellement, 35 000 demandes de logements sociaux sont en attente d'attribution sur le territoire toulousain. 35 000 demandes, donc habitants, attendent un logement, alors que sur le Mirail, beaucoup de logements actuellement sont fermés. Et que pour l'école d'Aura, actuellement, deux familles dorment dans la rue avec leurs enfants, alors qu'à côté d'eux, des logements qui pourraient les accueillir sont vides.
Sachant que chaque fois qu'on parle et qu'on écoute, on nous dit qu'il y a 10 villes qui arrivent sur Toulouse chaque année, mais ces 10 000, ils vont les mettre au bout. Déjà qu'ils n'ont pas déjà des problèmes de loger les gens, et on ne dit pas qu'ils ne viennent pas, c'est bien. C'est comme ça que ça se fait, comme ils disent, aimer Toulouse, aimer vivre avec et respecter les gens, respecter les pauvres, les riches, et faire de mieux pour que ça soit une ville pour tout le monde. C'est pas pour les pauvres, non, pour les riches, pour les raciales, que ça soit ethnique. Donc c'est un atout à jouer pour laisser les gens vivre là où ils souhaitent, laisser l'histoire pour nos enfants, pour demain, et lever la tête et dire ça c'est l'histoire de ma ville, ça c'est mon quartier et je suis fière.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous toutes et tous d'être venus et à bientôt, j'espère. Au revoir.
Au revoir.
Et on va écouter, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après avec les étudiantes de la bibliothèque idéale. Je ne sais pas comment les appeler, mais on se retrouve juste après.
Des petits crocodiles qui parlent de mawashi, Oui, je sais, c'est un style. C'est des mômes qui dorment le jour et pas la nuit. C'est des mômes qui dorment le jour et pas la nuit. Comme si le soleil se levait pour des prunes. Comme si le soleil se levait pour des prunes. Comme si le soleil. Comme si le soleil. Dans ma cité, il y a des jolies libellules qui dévorent des livres à défaut des pilules. Elles lisent des beaux princes, leurs doux billets d'humeur. Dans leur bouche, y'a pas que des bouquets de fleurs. Mais voilà, pas de fleurs, y'a que des casseroles. Non, pas de fleurs, mais que des casseroles. Et de l'huile de table qui coule sur leur tablier. De l'huile de table qui coule sur leurs beaux souliers. Comme si le soleil se levait pour des prunes. Comme si le soleil se levait pour des prunes. Comme si le soleil. Comme si le soleil. C'est un style. C'est des mômes qui dorment le jour et pas la nuit. C'est des mômes qui dorment le jour et pas la nuit. Comme si le soleil se levait pour des prunes. Comme si le soleil se levait pour des prunes. Comme si le soleil. Comme si le soleil se levait pour des...